furent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arrive, dans les villages et dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Gloire à Dieu. L'évangile de Luc, au chapitre 24, les deux lectures que je vous propose ce matin sont des lectures très connues, très riches d'enseignements. Luc 24, nous sommes là maintenant à la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine, et au verset 13, nous lisons ceci. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu de nous. Amen. Moi je prie que lui-même ce matin se présente au milieu de nous. C'est vraiment la prière de mon cœur. Lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel pour eux, après l'avoir adoré. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour votre écoute attentive et patiente, pour ces lectures relativement longues qu'on va essayer de survoler ce matin et pour en retirer quelques enseignements. Il y a une expression que l'on trouve dans les deux textes, dans des contextes différents certes, mais cette expression qui va me servir de fil conducteur. Vous savez, dans la première lecture, la tempête, les disciples ont du mal à ramer et à contrôler la situation. Jésus vient en marchant sur l'eau et l'évangéliste Marc précise, il parut vouloir aller plus loin. Il voulait les dépasser. Il voulait les dépasser. C'est une posture par laquelle Jésus envoie un message à ses disciples en difficulté. Ils s'épuisent, ils sont épuisés, exténués. Ils se disent, pour nous, c'est la fin. Ils se voient déjà se noyer. Ils pensent que tout est fini, mais Jésus leur envoie un signal, un message par sa posture. Il voulait les dépasser, comme si le Seigneur était en train de leur dire, « Non, vous ne finirez pas là. Non, votre histoire n'aura pas cette fin dramatique d'une noyade collective, mais moi, j'ai prévu quelque chose pour vous. » Et par ce geste, il est en train d'encourager les disciples à se mettre à espérer encore. Et heureusement qu'ils ne sont pas restés là au milieu de ce lac, se noyant tragiquement, parce que de l'autre côté, là où Jésus les a amenés, plus loin, de l'autre côté, dans le pays de Génézareth, nous avons lu ensemble, partout où l'on a reconnu que Jésus était là, on a amené des malades, des estropiés, des misérables, des gens en souffrance. On les plaçait sur les places publiques et on demandait à Jésus simplement que les malades puissent toucher le bord de son vêtement et ils étaient guéris. Que Dieu soit béni. Heureusement que les disciples se sont laissés entraînés plus loin par le Seigneur. Dans le second récit, c'est exactement le même message que Jésus adresse à ces deux hommes complètement effondrés et abattus. Ils arrivent après une marche commune, je vais y revenir, au niveau de l'auberge que ces deux hommes avaient certainement louée pour une nuit. Et Jésus parut vouloir aller plus loin. C'est le même message. C'est comme si le Seigneur disait à ces deux hommes, « Vous avez élaboré vos plans. Votre plan, c'est de passer dans cette auberge une nuit réparatrice après un bon repas, mais moi je veux vous entraîner plus loin. C'est pourquoi j'ai intitulé cette série de prédications que nous aurons, si Dieu le permet, pendant 3 dimanches au mois de juin, là, « Aller plus loin avec le Seigneur ». Aller plus loin avec le Seigneur, c'est une volonté fortement établie et qu'il révèle à son Église de la part du Seigneur. Sa volonté, c'est que nous allions plus loin avec lui, plus loin avec lui. C'est un presque vieillard qui vous parle, mais je veux encore aller plus loin. Le nombre des années, le nombre d'expériences vécues n'enlève en rien ma soif, ma faim et ma motivation de vivre avec mon Dieu encore des choses nouvelles, des expériences nouvelles, de remporter des victoires nouvelles et de faire encore des progrès jusqu'à ce que la trompette de Dieu sonne et que l'enlèvement ait lieu, que le Seigneur soit béni. Mon frère, ma sœur, déjà en introduction, j'aimerais t'adresser ce message. La volonté de ton Dieu, c'est que tu ailles plus loin avec le Seigneur. Tu as peut-être accepté l'idée de fixer et d'arrêter ta pérégrination à l'auberge. Tu as tes calculs, et tes calculs ont leur logique, la logique peut-être d'un cœur affligé, d'un cœur abattu, d'un cœur découragé. Quand on est découragé, on a une certaine logique, c'est de s'arrêter. Mais le Seigneur, dans sa bonté, veut t'encourager et te dire non, ton histoire ne se terminera pas à l'auberge, à l'hôtellerie, mais moi j'aimerais te conduire plus loin, plus loin. Ce message simple, mais que je ressens comme étant décisif pour nous, je vous encourage à le méditer pendant tout l'été. Je vais vous livrer, en comptant sur la grâce de Dieu, quelques clés, quelques enseignements, quelques traits d'instruction biblique, et je prie pour que ces instructions ne se diluent pas dans l'oubli, mais que durant tout l'été, s'il vous plaît, vous preniez chaque jour un moment pour méditer, méditer, relire ces textes, vous placer devant le Seigneur avec une prière sincère. Ô mon Dieu, avant ton prochain retour, viens visiter ma vie, viens œuvrer dans mon âme et viens m'aider à me relever, à reprendre mon chemin. Je veux aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Amen. Aller plus loin avec le Seigneur. Alors, pour revenir à notre second texte, les disciples qui sont en chemin pour la ville d'Emmaüs, j'aimerais voir 3 points. Ma prédication ce matin va se décliner en 3 phases. Le problème, les conséquences du problème et le remède au problème. Oui, parce qu'avec Dieu, il y a toujours le remède. On est bien d'accord ? Le problème, les conséquences du problème et le remède au problème. Le problème, c'était quoi ? En réalité, les disciples eux-mêmes vont l'exprimer. Le problème, pour ces 2 hommes qui avaient suivi Jésus, qui avaient vu Jésus guérir des malades, qui avaient bénéficié de son enseignement, les béatitudes et toutes les paroles merveilleuses qui sortaient de sa bouche. Ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus pour les multiplications des pains. Ils ont suivi Jésus pour la pêche miraculeuse. Ils ont suivi Jésus tout au long de son itinéraire. Et à un moment donné, ils ont cessé de suivre Jésus. Un arrêt brutal est intervenu. Et cet arrêt s'est produit au pied de la croix. Il y a une chose que tout en eux avait du mal à accepter, c'est la croix. Comprenez pas. D'ailleurs, ils vont le dire. Nous pensions que ce serait lui. Nous pensions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils avaient placé en Christ des espoirs de nature humaine sans avoir compris le grand plan du salut de Dieu, et tout en eux refusaient la croix. Quand ils ont vu leur Seigneur rendre l'esprit en prononçant ces paroles, tout est accompli, ça a mis un arrêt, un arrêt. Ils sont là, au pied du Golgotha, et ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Dans l'Ancien Testament et dans la typologie et dans le symbolisme de l'Ancien Testament, il y a un fleuve qui est le Jourdain et qui est en quelque sorte un peu un symbole précurseur de la croix, parce que le Jourdain dans l'Ancien Testament va symboliser la notion de la mort à soi-même. La mort à soi-même. Et il est à noter, par exemple, que quand Abraham a dit à Lot, « Tiens, choisis, là où tu iras, moi j'irai de l'autre côté », eh bien, il est remarquable que Lot lève les yeux vers, non pas le Jourdain, mais vers la plaine du Jourdain, qui était fertile. Et Lot va dire, « C'est là que je veux aller, à la plaine du Jourdain ». Pas le Jourdain, mais la plaine du Jourdain. Et effectivement, la plaine du Jourdain était d'une surabondance. C'était vraiment l'endroit idéal pour prospérer. Je dirais, acceptez-le, parce que je vous le dis avec amour et je me le dis en premier, je dirais que ce Lot qui préfère la plaine du Jourdain au Jourdain, c'est le type des chrétiens qui aiment l'évangile sans la croix. L'évangile avec uniquement les bénédictions. L'évangile qui console, l'évangile qui guérit, l'évangile qui donne l'espoir, l'évangile qui relève. Et c'est tout ça l'évangile. L'évangile relève, alléluia. L'évangile bénit, amen. L'évangile engendre des fruits merveilleux, que Dieu soit béni. Mais nous ne pouvons pas oublier que tous ces fruits merveilleux proviennent de la croix. Ça provient de la croix. Ce sont les bénédictions précieuses qui découlent de la croix. Et il y a un moment, je vais rencontrer ce problème que les disciples ici ont rencontré. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand notre maître nous dit, on te frappe sur la joue droite, tant l'autre, c'est la croix ça. C'est l'esprit de la croix. Le bienfaiteur parfait qu'il a été et qu'il est, le voici maintenant accusé, cloué sur le bois maudit de la croix. Quelle injustice ! Eh bien, des injustices semblables, je vais forcément être appelé à les rencontrer sur mon chemin. Entendre des gens me maudire et Jésus qui me dit « bénissez ceux qui vous maudissent », oui, ça c'est l'esprit de la croix, c'est de bénir ceux qui me maudissent. Rencontrer des personnes qui me persécutent et entendre Jésus me dire « il faut prier pour ceux qui vous persécutent », ça c'est l'esprit de la croix. Il faut prier pour ceux pour lesquels on ne serait pas naturellement enclin à prier, mais d'avoir compris la croix va me donner la capacité et les sentiments du Christ me rendant capable de prier pour les gens les plus vils, peut-être même, allais-je dire, les plus détestables. Cependant, Christ a donné sa vie aussi pour eux. Ça, c'est la croix. Mais il faut le reconnaître, notre nature humaine ne pourra pas accepter ces choses. Il faut l'action du Seigneur en nous. Il faut, on va le voir tout à l'heure, tout un travail que nous lui permettrons d'accomplir en nous pour que nous puissions nous dégager de cet arrêt brutal et que nous puissions aller plus loin. C'est ça la problématique. Ils étaient arrêtés par l'événement de la crucifixion, ils ne l'acceptaient pas, ils ne l'admettaient pas, et cependant, la croix, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Quand tu aimes des gens pas aimables, tu es en train d'appliquer la sagesse de Dieu. Écris-le sur ton carnet. Mets-le dans ton ordinateur. Quand tu réponds avec un sourire sincère à quelqu'un dont tu sais que les intentions ne sont pas très bienveillantes à ton égard, tu mets en pratique la sagesse de Dieu. Quand tu gardes ta bouche muette alors qu'il y a des propos qui aimeraient jaillir, mais non, tu restes paisible et silencieux, tu appliques la sagesse de Dieu. La croix, c'est la sagesse de Dieu. Moi, je veux accepter la croix. Et je veux accepter de vivre la croix moi-même, de porter la croix moi-même, de manifester les valeurs de la croix. Je veux endosser. Mais quel bonheur, quel privilège quand vous lisez certaines confidences de l'apôtre Paul sur ses combats, ses déceptions, ses douleurs, ses souffrances, ses fatigues, ses épuisements, ses épreuves, les maltraitances qu'il a souffertes. Et quand vous l'entendez dire, quelle générosité, quel bonheur, quelle joie il a eu à gérer ces choses pour la gloire de Jésus et pour le bien des croyants, ce sont des exemples qui nous motivent. Mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas au pied de la croix, mais accepte d'entrer dans cette valeur de la croix, cette dimension de la croix. Et vous savez, quand on est comme cela, bloqué, quand on ne veut que la plaine florissante du Jourdain sans le Jourdain, alors un moment, un autre, alors ça fait de nous, excusez-moi le terme, je ne dis pas que nous le sommes, mais peut-être que oui, ça fait de nous des chrétiens qu'on appelle rétrogrades. Et au fait, je vais vous dire une chose, moi quand j'ai passé mes cours de conduite, moi j'ai appris que rétrograder, c'est de passer de la troisième à la deuxième. Ouais. Ben, vous avez devant vous un gars qui a été rétrograde bien des fois hein, dans ma marche chrétienne, où j'ai passé de la quatrième à la troisième, et de la troisième à la deuxième. Il y a des moments, on traverse des périodes dans la marche chrétienne qui sont tellement difficiles que notre élan est affecté. Et peut-être notre fraîcheur est mise à mal. Et j'aimerais donner 5 points descriptifs de ses disciples, entre guillemets, rétrogrades. Le premier point, c'est les dispositions de leur cœur. On est bien d'accord, frères et sœurs, ça commence toujours par le cœur. Oui ou non? La Bible me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car en lui sont les sources de la vie. Amen. Ça commence par leur cœur. Et étant entré dans le cycle tellement douloureux de la foi rétrograde, ses disciples se sont retrouvés avec des dispositions de cœur en souffrance. Nous espérions, c'est la déception, la frustration, c'est la désillusion avec son cortège d'amertume, d'incompréhension. L'état de leur cœur était tellement négatif qu'il a bien fallu que le Seigneur Jésus vienne en aide. Alors moi, je prie pour que notre cœur, à chacun, soit en permanence sous la bénédiction du Seigneur. Et je prie pour que tu sois béni ce matin dans ton cœur. Que ton cœur soit béni et que dans ton cœur, toutes les pensées, tous les ressentis qui ne sont pas pour ton bénéfice soient enlevés et que le Saint-Esprit t'encourage, qu'il te ramène les promesses de Dieu, qu'il te rappelle combien Dieu est bon. On a chanté que ta fidélité est grande, alléluia. Est-ce qu'elle est grande la fidélité de Dieu? Oh, rappelle-le à ton cœur ce matin. fais comme le roi David, dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, bénis l'Éternel, rappelle à ton cœur. Écoutez, dans ce domaine, nous sommes tous appelés à être des petits prédicateurs pour nous-mêmes. Prêche-toi, prêche à ton cœur, prêche-lui les promesses de Dieu, alléluia. Prêche-lui pour lui rappeler, rafraîchir sa mémoire, que Dieu n'est pas un homme pour défaillir, pour se tromper, pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, alléluia. Que ton cœur soit affermi ce matin, qu'il soit réjoui, consolé, apaisé, que tes sentiments, peut-être un petit peu anarchiques, soient remis en harmonie. Alléluia! Oh, sois béni dans ton cœur et que ce que tes oreilles entendent ce matin descende dans ton cœur et fasse une œuvre merveilleuse. Alléluia! Le deuxième point descriptif de ces disciples rétrogrades, c'est la direction qu'ils ont prise. Ils tournent le dos à Jérusalem. Ils s'éloignent de Jérusalem et ils marchent vers Emmaüs. Ils ont fait 8 kilomètres comme ça. Tourner le dos à Jérusalem. Oh, quelle symbolique. C'est peut-être la plus grande erreur qu'on puisse faire. Tourner le dos à Jérusalem en sachant que Jérusalem, dans les Saintes Écritures, nous parle particulièrement. Par exemple, le psaume 48, verset 3, appelle Jérusalem la ville du grand roi. C'est la ville du grand roi. Ceci me parle de la présence de Dieu. Je pourrais dire en quelque sorte qu'en tournant le dos à Jérusalem, ces deux hommes tournent le dos à la présence du Seigneur. Mais où trouver le relèvement ailleurs que dans la présence du Seigneur? Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, on l'a chanté. Hein. C'est auprès de Dieu. C'est là, dans ce contact infiniment précieux, que je vais ressentir à nouveau combien il m'aime. La présence du Seigneur, la présence du Seigneur, à laquelle, avec passion, nous voulons être attachés. La présence du Seigneur. Je me souviens de ce témoignage, mais on pourrait en donner bien d'autres. De cet homme de Dieu qui a été invité à l'hôpital pour venir au chevet d'une mourante. Il y avait ses quelques membres de sa famille, et il y avait ainsi la pauvre femme qui était à la fin. Et cet homme de Dieu arrive, étonnamment, il n'invite pas immédiatement à prier. Mais il prend le temps, avec ces deux, trois personnes, de lever les yeux dans l'adoration. Il ne leur dit pas « Nous allons maintenant prier pour la personne, mais nous allons plutôt lever les yeux et adorer le Seigneur ressuscité. » Et c'est ainsi que son témoignage est retranscrit dans un livre très, très édifiant. À un moment donné, alors que là, 4 ou 5 personnes ensemble sont en train d'adorer le Seigneur Jésus, de rappeler que son nom est au-dessus de tous les noms, de s'émerveiller de l'amour de Christ. À un moment donné, frères et sœurs, la chambre d'hôpital a été remplie de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Elle était palpable. Le Seigneur a visité cette chambre d'hôpital. Il n'y a même pas eu besoin de prier pour le relèvement de la malade. Elle a été relevée immédiatement. La présence de Dieu. Ton besoin prioritaire, c'est la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Mais au contraire, entre dans ta chambre et cherche la présence de Dieu. Amen. Un jour, je visitais deux jeunes qui n'étaient pas mariés officiellement. Ils venaient aux réunions depuis quelques semaines. Et lui avait été très touché par l'évangile, elle pas du tout. Elle me l'a montré hein, sur son visage. Elle avait la banane à l'envers, vous voyez, comme ça. Là. Et je lui disais, mais écoute, Dieu est vivant et il a dit qu'on pouvait le mettre à l'épreuve et il se manifesterait, etc. Et la banane était toujours comme ça, vous voyez. Alors je lui ai dit, écoute, tu veux savoir s'il est vivant ou non? Elle m'a dit, oui. Alors fais quelque chose. Promets-moi, tous les matins, dans ta chambre, d'adresser à Dieu la prière que moi j'appelle de l'incrédule. Si tu existes, fais quelque chose, comme ça. Et je les laisse comme ça. Et en fin de semaine, vendredi soir, réunion, ils arrivent à la réunion sur deux grosses motos. Ils étaient impressionnants, ces jeunes. Et quand elle est entrée dans la salle de l'église, la banane avait changé de disposition. Elle avait la banane comme ça. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Lundi matin, rien. Mardi, rien. Mercredi, rien. Et hier, jeudi, j'ai pas pu finir ma phrase. J'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai été inondé de son amour. Et je sais qu'il est vivant. Je me suis mise à pleurer. Je ne pouvais plus arrêter ce moment. Et je sais qu'il est vivant. Je l'ai rencontré. Seigneur, que ce matin, ta présence visite quelqu'un en particulier. Que Dieu te visite ce matin. Amen. Le troisième trait descriptif des disciples rétrogrades. De quoi vous entretenez-vous, a dit Jésus. La matière, le sujet de leurs échanges. Vous savez que il y a des sujets qui, au lieu d'édifier, affaiblissent et fragilisent. Le Seigneur veut nous donner la sagesse pour sélectionner les sujets de mes propos ou de mes échanges entre frères et sœurs. L'apôtre Paul l'écrit explicitement, il y a des discussions qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les tiennent. Ça n'édifie pas, au contraire. Et alors, bien sûr, la matière qui alimentait les propos de ces deux hommes ne faisait qu'accroître leur découragement. Le quatrième point descriptif de ces deux disciples rétrogrades, c'est que quand ils parlent des miracles du Seigneur, ils en parlent à l'imparfait. À l'imparfait. Es-tu le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé? Et ils expliquent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Frères et sœurs, je suis heureux de vous rappeler que le temps des miracles n'est pas passé. Qui croit aux miracles encore aujourd'hui? Alléluia, gloire à Dieu. Le temps des miracles n'est pas passé. Et l'adversaire serait soulagé de te convaincre de conjuguer les miracles de Dieu à l'imparfait. Or, l'imparfait, c'est vraiment pas parfait. La foi à l'imparfait n'est pas une foi parfaite. Parce que moi, je veux conjuguer les miracles de Dieu au présent. Au présent. Le présent de l'éternité. C'est le présent de la permanence, de la constance. Les miracles d'hier sont aujourd'hui encore les miracles que sa main peut accomplir. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, on peut aussi s'attendre au miracle de Dieu. Amen. Qui le croit cela? Alléluia. Les miracles ne sont pas passés, le temps des miracles n'est pas passé. Et je prie, en effet, comme on l'a chanté, que ces lieux soient visités par la puissance du Dieu des miracles. Alléluia, que pendant les chants, pendant la prédication, la prière, la louange, la sainte cène, brusquement sur leurs chaises, des hommes, des femmes, des enfants, des ados, soient visités par le Dieu des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Et puis je termine, le cinquième point descriptif de ces disciples rétrogrades, c'est que leurs yeux était empêché de voir et de reconnaître Jésus. Des yeux empêchés. Vous savez que le Seigneur va conseiller à l'église de Laodicée d'acheter un collyre, hein, pour oindre et pour soigner et pour purifier ses yeux, un collyre. Eh bien, c'est un trait caractéristique de cette spirale négative de chrétiens rétrogrades, un collyre pour oindre nos yeux, parce que nos yeux, parfois, sont empêchés, retenus de voir le Seigneur. Et nous voulons que nos yeux soient éclairés, capables de voir. Alors voilà les conséquences, quelques-unes des conséquences du problème. Et puis il y a le remède. Gloire à Dieu. Le remède. Jésus va venir au secours de ces deux hommes, comme il veut venir à mon secours, à ton secours ce matin. Et je suis intéressé de voir comment le Seigneur va procéder. La première étape, Jésus s'approcha et fit route avec eux. La première étape. Il ne parle pas. Il s'approche, autrement dit, il réduit la distance, il se fait proche, et il fait route avec eux. Il a des choses à leur dire. Il a des choses à leur communiquer. Mais avant la communication, il y a la communion. La communion. Parce que s'approcher et marcher ensemble, ça nous parle de la communion. Gloire à Dieu. D'ailleurs, dans le mot communion, il y a cette idée de marcher ensemble. Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. C'est une vie de communion. Une vie de communion. Alléluia. Pierre et Jean marchaient ensemble. Acte chapitre 3. À l'heure de la prière, Pierre et Jean marchaient ensemble. C'est un miracle. Pour que Pierre et Jean marchent ensemble, en communion, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Dans l'expérience de la Pentecôte, il y a eu un nettoyage intérieur. Tout esprit de compétition, de comparaison, qui est le meilleur, qui est le plus grand, etc., qui est le plus sage, qui est le préféré, etc. Tout ça, ça a disparu. Et maintenant, Pierre et Jean marchent ensemble. C'est la communion. Est-ce que nous marchons ensemble? Il y a deux amen et demi. En tout cas, c'est la première œuvre que le Saint-Esprit veut accomplir au milieu de nous. Et ça, seul lui peut le faire. Nous, nous prêchons, nous, nous enseignons, et nous, nous attendons à la confirmation du Saint-Esprit dans les cœurs, afin qu'en réalité, nous marchions ensemble, la communion avant la communication, la communion. Et une fois que la communion était établie, il a fait route avec eux pendant un certain temps, alors il y a la communication. Et le Seigneur Jésus va commencer à s'employer à communiquer une intelligence, un encouragement et des ressources pour qu'ils aillent plus loin. La communication. Et comment le Seigneur s'y prend-il? Il vient avec une encyclopédie biblique, avec une série de 10 études, comme un professeur. Pas du tout. Il vient par une question. Il commence par une question. Jésus dit, mais vous parlez de quoi pour avoir la tête qui fait 6 heures du soir, là, vous savez? La petite aiguille, la grande aiguille. Il faut presque que vous leviez le menton parce qu'il va traîner par terre tellement vous êtes triste. Vous êtes triste, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi vous entretenez-vous ? Et la forme interrogative exprime toute la délicatesse et tout l'amour du Seigneur. C'est comme ça que même l'Éternel a procédé avec Jonas. Jonas, fais-tu bien de t'irriter ? Moi, je ne sais pas si j'aurais pris cette forme délicate. Hein. C'est comme ça qu'il fait avec Élie. Élie, que fais-tu ici ? Qu'as-tu ? Des questions. Le Seigneur Jésus, en s'approchant de toi, ne va pas asséner des principes bibliques froids, comme le bâton de Géasi qu'il a plaqué sur l'enfant qui était mort, là, de manière froide, dure. Non, le Seigneur va venir et il va établir une communication sous la forme interrogative. Non pas qu'il ne sache pas les choses, il sait tout le Seigneur, mais le fait qu'il m'interroge sur ce que j'ai va me permettre de vider mon sac. C'est pas vrai ? Et si, mon frère, ma sœur, si tu veux reprendre ta marche pour aller plus loin avec le Seigneur, il y a un moment, il faut que tu arrêtes d'accumuler en toi, de retenir en toi, de garder en toi tout un stock amer dont tu vas te nourrir malheureusement, à te rendre malade. Mais il y a un moment, le Seigneur te parle et il te dit, mais qu'est-ce que tu as ? Et là, les deux hommes s'expriment. Ils s'expriment parce que, voyez-vous, avant de nous remplir de ses richesses, le Seigneur veut que nous nous vidions de tout ce qui est négatif. Vous savez, au pied de Jésus, et seulement au pied de Jésus, tu peux épancher le contenu de ton âme. Amen. Pas sur Facebook, pas sur Instagram. Il y en a qui se dévoilent à la vue du monde entier. Mais non, c'est dans ta chambre. Tu viens au pied de celui qui t'attend, qu'il y a un rendez-vous d'amour avec toi. Et là, tu répands ton âme. Tu lui dis les difficultés que tu rencontres. Tu lui exprimes ta douleur, ton trouble. Tu vides ton âme. Et ton âme étant vidée, lui va la remplir. Amen. Il va la remplir. Et je prie pour que ce matin, nous repartions de ce lieu, le cœur rempli des trésors du Seigneur. Rempli de sa parole, rempli de sa compréhension, de sa sagesse, de sa vision, alléluia, gloire à Dieu. Alors, ils répandent leur nostalgie, leur amertume, ils vident leur cœur, et le Seigneur va ensuite, troisièmement, procéder à remplir leur cœur des réalités spirituelles qui leur échappaient. La Bible nous dit, il leur expliqua. Jésus explique. Dans ce long passage, il est aussi question à plusieurs reprises d'ouvrir. Il leur ouvrit les yeux, d'ouvrir. Parce que expliquer contient l'image d'une ouverture. Mes yeux s'ouvrent, mon intelligence s'ouvre, ma compréhension s'ouvre, et je prends conscience que j'étais enfermé dans des schémas faux. Alors, le Seigneur explique, il explique dans toutes les Écritures, dans les prophètes, dans les psaumes du temps de Moïse, dans le Pentateuque, il leur explique tout ce qui le concernait. Et alors, leurs yeux s'ouvrent. Peu à peu, il y a besoin que nous jouissions des explications du Seigneur. Gloire à Dieu. De Lydie, il est écrit, Dieu lui ouvrit le cœur afin qu'elle comprenne et reçoive la parole de Dieu. Dieu lui ouvrit le cœur. Alléluia. Et ça, lui seul peut le faire. Ce matin, Dieu veut t'expliquer. Il veut ouvrir ton intelligence. Il veut ouvrir tes yeux, que tu puisses comprendre, constater. Voilà, l'apôtre Paul, dans ce navire, dira « Je vois ». je vois. L'apôtre Pierre, libéré de sa prison, dira « je vois maintenant, d'une manière certaine, que Dieu a envoyé un ange. » Il y a un moment, il faut que nos yeux s'ouvrent. Et le Seigneur a le pouvoir de le faire, que Dieu soit béni. Et là, ils arrivent au niveau de l'auberge, et comme je vous le disais, il parut vouloir aller plus loin, mais ce sont les disciples qui le retiennent. Vous la trouvez pas sublime, cette prière? Reste avec nous, Seigneur. Amen. Oh, reste avec nous, Seigneur. Ne nous laisse pas séparés de toi. Reste avec nous. Ça nous fait tellement de bien, tout ce que tu nous expliques. Reste avec nous. Le jour est sur son déclin. Et c'est vrai que nous vivons des temps où le jour est vraiment sur son déclin, la nuit approche, elle s'épaissit, Jésus revient. Reste avec nous. Et il se passe donc ceci, nous l'avons lu ensemble, ils se mettent à table. Alors écoutez, l'auberge c'est un lieu où on se fait du bien. Le voyageur fatigué et affamé se restaure. L'auberge est un lieu où on se repose et on renouvelle ses forces. L'auberge, on pourrait dire, ressemble à l'église qui est appelée à être un lieu où on se fait du bien. Amen. Un lieu où on se nourrit. Un lieu où on est renouvelé dans nos forces. Parce que se reposer, ça parle d'un renouvellement de forces. C'est un lieu de guérison, de bénédiction, d'encouragement. Mais Jésus veut nous faire aller plus loin. Parce qu'il y a tous ceux qui sont en dehors de l'aubergerie. Et je reviendrai dans ma conclusion sur cela. Mes frères et mes sœurs, nous vivons des temps qui rendent impératif que nous nous débarrassions des préoccupations parasites et infructueuses pour aller plus loin avec le Seigneur dans le domaine de l'évangélisation. Et ça aussi, s'il vous plaît, en juillet, en août, pendant vos congés, méditez sur ce sujet. Chaque jour, des milliers meurent sans connaître le Sauveur. Nos hôpitaux sont regorge de personnes en grave souffrance. Nos prisons sont insuffisantes pour accueillir tous ces gens marqués de violence que Dieu aime cependant et qu'il veut sauver. Nos orphelinats ne suffisent pas à accueillir toute la misère dans l'enfance d'aujourd'hui. Il y a dans nos rues de plus en plus de recrudescence d'actes violents, désaxés, fous, insensés. Le péché est à son paroxysme. La nuit s'épaissit et il y a une urgence. C'est cette urgence qui fait que l'Église est encore sur terre. Sinon, le Seigneur l'aurait enlevée. S'il laisse encore quelque temps son Église sur la terre, c'est pour relever cette grande mission, aller par tout le monde, l'évangélisation. Et par tout le monde, eh bien, c'est le palier de ton immeuble où il y a une mamie qui est là, toute seule, un jeune couple qui s'entre-déchire. Donc, il y a l'auberge. Il faut qu'elle soit accueillante. Gloire à Dieu. Amen. Et veillons à être accueillants, hein. Il faut être accueillant. Il faut qu'il y ait dans l'auberge l'atmosphère, de la chaleur, de la présence de Dieu. Il faut qu'on se fasse du bien dans l'église. Alléluia. Mais le Seigneur veut aussi nous entraîner plus loin. Là où il y a le règne de la misère et du péché. Il parut vouloir aller plus loin. Les disciples le supplient de rester. Ils accèdent à leur demande, ils sont maintenant attablés, et à un moment donné, eh bien, Jésus prend le pain et il le rompt, et ce geste déclenche une prise de conscience. Ils le reconnaissent. Il est vivant. Et à ce moment-là, il disparaît parce que c'est par la foi que nous devons marcher, pas par la vue. Il est vivant. Et alors, écoutez les propos que ces hommes prononcent. Je termine là-dessus. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous-mêmes lorsqu'il nous expliquait les Écritures? J'ai envie d'appeler ce dernier paragraphe, c'est ma conclusion, rallumer la flamme. Rallumer la flamme. C'est par cette expression et cette image que les deux hommes expriment leur expérience. La flamme a été allumée. Notre cœur ne brûlait-il pas? Alors, il y en a qui pensent que, voilà, il faut choisir tel athlète, pour allumer la flamme olympique là-bas. Mais ça, c'est des flammes, illusoires, hein. Mais il y a une flamme qui est la flamme divine, la flamme du Seigneur qui est appelée à embraser chaque chrétien. C'est par un buisson ardent qu'un homme dans le désert a rencontré l'Éternel, Moïse. Hein, c'est un buisson ardent. Moi, je prie pour que nous soyons un buisson ardent. Chaque branche de ce buisson était enflammée. Gloire à Dieu. Amen. Et vous pouvez donner à chaque branche votre nom. Hein, voilà. La flamme, rallumer la flamme, ça fait partie de la médication du Seigneur. Le remède, c'est que l'Esprit de Dieu enflamme ta vie tout à nouveau. Alléluia. C'est que tu sois renouvelé dans le débordement et la plénitude du Saint-Esprit, dans le parler en langue, et que tu sois renouvelé dans l'exercice des dons spirituels. Alléluia, que tu sois renouvelé dans ta motivation de témoigner de Jésus autour de toi. Je me souviens avec honte, parce que j'ai besoin d'être renouvelé moi-même, de ces premières années où j'étais au lycée du Parc à Lyon, et quand un soir je rentrais du lycée sans avoir pu rendre témoignage à un de mes copains ou à un surveillant, j'étais déçu. Le Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à rendre témoignage, alors permets que demain je réussisse. Et c'était quelque chose qui me tenaillait. Parler de Jésus, dire que le seul espoir pour le monde, c'est Jésus, qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous devions être sauvés. La flamme qui rend tout possible. Écoutez-moi bien, ils ont fait 8 bornes, c'est le soir, ils sont fatigués, ils sont affamés. Ils sont dans un espace qui les invite à un moment de pause et de relâche. Ils ont peut-être même payé déjà 3 repas. J'imagine, ils ont payé 3 repas. Attention, le repas qu'ils ont sous les yeux, rien que de le sentir, c'est quelque chose. Les repas orientaux, mes amis, c'est quelque chose. Des saveurs, des arômes, et puis c'était bien cuisiné, c'était là devant eux. Jésus rend grâce, ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent, ils oublient le repas, ils ne demandent pas un ticket de remboursement pour ce qu'ils ont payé, ils oublient de se reposer, leur vie est transformée, leur force est revigorée, ils se lèvent et ils refont 8 kilomètres. Et ils y vont. Rien n'est impossible. Et quand je pense que certains chrétiens dans certaines villes habitent à 50 mètres de l'église et qu'on ne les voit que le dimanche matin, parce que le mardi soir, il y a une émission, etc. Quand je vois que des peccadilles, et le mot n'est pas exagéré, suffisent à empêcher le zèle de certains croyants, mes amis, je dis que j'ai besoin que la flamme soit rallumée. Que le zèle soit restauré. Si ton cœur est cassé, si ton élan est rompu, si tes perspectives sont tournées vers le négatif, ce matin, Dieu a le remède pour toi. Et il veut rallumer la flamme dans ton cœur. Il veut faire que tu redeviennes le chrétien zélé que tu as été. la chrétienne fervente que tu as été. Et que l'église d'Aubagne redevienne l'église qu'elle a été. Alléluia. Et je le crois parce que Dieu, c'est le Dieu qui enflamme et c'est aussi le Dieu qui rallume la flamme. La flamme qui fait que rien n'est impossible. On ne se laisse arrêter par rien. La flamme, et puis la flamme de l'amour fraternel. La Bible nous dit qu'ils sont allés vers les leurs. Les premières personnes qui sont allées trouver, c'est les disciples. La communion, l'Église. La flamme de la communion fraternelle. Qu'elle est belle, qu'elle est précieuse, quelle puissance spirituelle elle déclenche. Vous savez, lorsque toute une Église d'un même cœur invoque le Seigneur, quelle puissance elle dégage. Alléluia. Mon frère, ma sœur, laisse le Seigneur Jésus rallumer la flamme de la communion fraternelle. C'est l'une des cibles favorites de l'adversaire. Il veut détériorer la communion fraternelle, mais le Seigneur a vaincu et il a, lui, toujours le dernier mot. Ô Esprit de Dieu, visite-nous ce matin. Visite nos cœurs et rallume la flamme de l'amour fraternel. L'apôtre Pierre dira, aimez-vous les uns les autres d'un amour ardent. Ardent. Mais ardent. Un amour fraternel ardent. Troisième flamme, la flamme de la parole de Dieu. Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquerait l'Écriture ? Les trésors que la parole de Dieu renferme et que Dieu veut nous communiquer. Aimer la parole de Dieu. Je ne sais pas quel est le type et la qualité de relation que vous avez avec votre Bible, mais je vous en supplie, frères et sœurs, que le Seigneur vous redonne une faim et une soif de la parole de Dieu. Et que cette question fondamentale, que dit l'Écriture, nous serve de ligne directrice. Que dit l'Écriture ? Que dit l'Écriture ? Pour quel que soit le domaine concerné, que dit l'Écriture ? Et soyons pénétrés et imprégnés et habités de la parole de Dieu. Je dirais la flamme de la proclamation. Ils ont proclamé. On a besoin, dans une société où tout est relatif, tout est relativisé, que l'Église, elle, n'ait pas une foi relative, mais qu'elle soit habitée d'une proclamation. Vous savez, la philosophie moderne, c'est que rien n'est absolu. Rien n'est absolu. C'est chacun sa vérité, c'est chacun même, allez, je le dis, son évangile. On se fait sa petite recette, on s'accommode à notre manière, voyez. Mais en fait, à l'esprit mondain qui relativise tout, il y a l'Esprit de Dieu qui nous donne d'émettre une foi absolue. D'être capable de dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ qui a été fait homme. Ça, c'est une proclamation enflammée, une certitude, une conviction qui va se propager et qui va susciter la foi chez l'autre, que Dieu soit béni. Et je termine, parce que c'est quand même la conclusion de ce long passage, lorsque Jésus va leur apparaître là à tous, le verset 52 leur dit, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. » C'est la flamme de l'adoration. L'adoration. Nous sommes appelés à être des adorateurs. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit rallume la flamme de l'adoration parmi nous. Et que nos cultes en soient métamorphosés. Je vais vous faire une petite confidence. C'est entre vous et moi. Hein. J'aspire à ce que nos cultes puissent vraiment connaître une autre dimension. d'amour, de joie, de vive reconnaissance à l'Éternel notre Dieu, d'adoration. Quand je suis transporté par l'adoration, moi j'oublie mes bobos, même plus mal. Quand je suis transporté par l'adoration, Christ m'éblouit, sa beauté me transcende. Je suis là pour l'adorer en esprit, en vérité, mais je n'ai même plus envie de parler des peccadilles d'ici ou de là, voyez. Et je prie pour que tous ceux qui cherchent à polluer la vie d'adoration qui devrait s'exprimer au sein de l'Église soit évacuée, hein, par le vent de l'Esprit, et que notre Église soit une Église d'adorateurs qui adore le Seigneur comme il en est digne. Alléluia. La flamme de l'adoration. Il y a un moment, voyez-vous, on est tellement dans l'adoration que le français nous manque, les paroles nous manquent, le vocabulaire nous manque. Alors il y a le parler en langue. Gloire à Dieu, par le moyen duquel je proclame les merveilles du Seigneur. Il y a des mots qui sont du vocabulaire céleste. Alléluia, c'est là les langues célestes. Et là, je vis dans une dimension qui est finalement la dimension tout à fait normale que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Je ne vous parle pas d'être des ultras, des hyper, mais des normaux, simplement des chrétiens qui adorent le Seigneur qui a tant fait pour eux, que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on pourrait ensemble demander à Dieu qu'il rallume la flamme ?